Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une histoire assez incroyable. Une jeune fille de 18 ans qui a un accident de voiture, qui se retrouve dans le coma et qui voit un tunnel séduisant et attirant, la mort. Et qui, au lieu de se laisser entraîner dans ce tunnel, s'accroche à une corde, la vie, et sort du coma. C'est l'histoire de Christelle Cahanin-Caillot, racontée dans un livre paru chez O Éditions, « Je suis sortie de mon corps ». Elle sera là tout à l'heure. Je l'ai écrite avec Christophe Dumazer, la réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Nous sommes le lundi 8 juin 1992, en milieu d'après-midi, dans un village des Yvelines, pas très loin de Versailles. Christelle, qui a 18 ans, passe son bac dans une semaine. « Maman ! Je sors ! » !»« Oh, mais enfin Christelle, t'es déjà sortie hier soir. T'as le bac dans 8 jours, je te rappelle. »« Mais je révise, maman ! Oh, moi j'aime travailler la nuit, mais là j'ai besoin de décompresser. » Décompressée. La vérité, c'est qu'elle veut passer un peu de temps avec son petit copain, Joe, et ses potes. Et d'ailleurs, les voilà. Ils arrivent à 2 voitures. Hector, le meilleur copain de Joe, conduit la Fiat Uno blanche de ses parents. Et dans une autre voiture, arrive Stéphane, le cousin de Joe, avec Zoé, sa nouvelle petite copine. On monte tous avec Hector ? Hein, ça sert à rien de prendre 2 caisses. Et les voilà donc, tous les 5, en route vers des étangs voisins pour une balade au soleil. Et vers 5h30, ils décident de rentrer. Christelle monte à l'arrière entre Zoé et Stéphane, et les voilà qui reprennent la route pour rentrer. Fenêtre grande ouverte, la musique à fond.
Moi, je voudrais être un chat.
Un copain les suit à moto, ils font un peu la course. Arrête Hector, putain! Tu vas nous tuer!
Je te jure.
Ce qui s'est passé après, difficile à dire. La voiture rate le virage, elle bute sur le talus. Devant, Joe et Hector sont éjectés. Derrière, les 2 qui sont près des portières sont éjectés eux aussi. Et Christelle reste coincée. Et la voiture fait plusieurs tonneaux et elle finit sa course dans un champ de blé. Et au dernier tonneau, Christelle est éjectée à son tour. Au passage, son crâne va fracasser la lunette arrière. Et après ? Après, c'est elle qui le raconte le mieux. Mais où je suis passé ? J'entends qu'on m'appelle. Je peux pas leur répondre. Je me lève, je vais vers eux. Je suis là ! Je suis là ! Ils ne me voient pas. Et la sensation étrange tout d'un coup, je me vois. Je ne comprends pas tout de suite, je m'observe. J'ai le même t-shirt noir, j'ai la même jupe bordeaux à petits boutons. Mais je me sens différente. Je vole au-dessus de mon corps. À terre, je suis encore complètement disloqué, recouvert de sang, le visage souillé. Et je dors. Mais moi, je vais bien. Je n'ai pas eu une égratignure, ma jupe n'est même pas déchirée. Je me vois 2 fois. Et ils ne me répondent pas. S'ils ne me répondent pas, c'est que je suis morte. Je suis morte. Mais enfin... Venez, je suis là! Au bout de quelques minutes, je vois Joe. Il vient me retrouver. Il veut me réanimer. Il pose ses mains sur mon corps. Il me fait un massage cardiaque. Et mon cœur repart! Le petit copain Joe est secouriste. Il a réussi à faire repartir son cœur. Mais Christelle est dans le coma. On vient d'appeler les pompiers. Joe appelle sa mère, qui appelle les parents de Christelle. Ils habitent tout près. Ils sont là avant les pompiers. Les pompiers sollicitent tout de suite le SAMU. Et peut-être même un hélicoptère.
de circulation. Nous sollicitons le SAMU. Il nous faudra probablement un hélico pour l'évacuer, à vous.
Le SAMU arrive. Ça dure des heures. Les parents, devant le camion, à attendre. Personne ne leur a rien dit de la gravité de la situation.
Prévenez la réanimation. Nous amenons une patiente, sexe féminin, âge 18 ans. Avec comme premier signe hémorragie interne, traumatisme crânien avec coma d'emblée et abdomen en défense. La patiente est sédatée, intubée et ventilée par voie orotrachéale.
Madame, monsieur, nous allons transférer votre fille à l'hôpital. Venez avec nous. Finalement, ça ne sera pas en hélicoptère. Trop risqué. À l'hôpital de Dreux, le verdict tombe.
Traumatisme crânien, Glasgow à 6, coma d'emblée, œdème cérébral diffus.
Christelle est aussi cassée de partout. La cage thoracique enfoncée, fracture du bassin au pluriel, fracture du nez, épanchement du sinus gauche, hémorragie au niveau des bronches et de l'estomac. Elle est très mal en point. Très mal en point. Et là, je les vois. Ces hommes et ces femmes en blanc qui s'affairent autour de moi, je les vois. Et je me vois aussi. Et je les appelle encore et encore, et ils ne me répondent pas. Ils ne m'entendent pas. Je m'aperçois que je suis en train de quitter mon corps, parce que je vois un bout de corde. Vite, parce que si je la lâche, j'ai l'impression que je n'aurai pas de seconde chance. Et puis arrive le moment où il faut dire les choses aux parents. La mère n'a pas réalisé, elle dit.
Comment va-t-elle? Est-ce qu'elle pourra passer son bac?
Le médecin regarde le père.
Je ne veux pas vous mentir. La machine la maintient en vie artificiellement, n'est-ce pas? Votre fille peut nous quitter d'un moment à l'autre.
Je suis dans un tunnel. Clair, lumineux. Et tout au bout, il y a un brouillard blanc. C'est difficile d'expliquer ce brouillard magique avec des mots. C'est un brouillard de spiritualité qui s'imprègne de nous quand on s'en approche. La mort ne fait pas mal, au contraire. Quand on s'en approche, on se sent bien, oh bien. Et je vois la corde comme une longue rampe qui s'enfonce vers la brume. Je suis pas forcé, mais j'ai le choix. Mais si je lâche, je me laisse entraîner. Et moi, je tire sur la corde pour sortir de ce tunnel. Ça fait mal. Et quand je tire moins, je me sens attiré vers le fond du tunnel. Et là, j'ai moins mal. Ses parents viennent la voir en réa.
Bonjour, ma chérie. C'est papa, maman.
Et là, ils sortent un magnétocassette.
Ta copine Melinda nous a prêté une cassette que t'écoutais le mois dernier, avec elle.
Je ne sais pas qui a eu la bonne idée de leur dire que quand on est dans le coma, on entend tout. Mais il a eu bien raison. D'ailleurs, tous ceux qui viennent me voir ne savent pas que les secrets qu'ils me confient, je les enregistre. Et plus tard, je leur dirai, tu te rappelles quand tu m'as dit ça? Christelle s'accroche à sa corde, c'est-à-dire à la vie. Elle s'accroche à sa corde pendant des semaines et des semaines. Elle dit qu'elle voit le médecin, pessimiste, sa petite sœur qui tombe dans les pommes à chaque fois qu'elle vient, et son père qui vient le jour de la fête des pères.
Bonjour ma chérie. Aujourd'hui c'est la fête des pères. Je sais que tu penses à moi.
Et là, comme un cadeau, je décide de lui montrer que je ne suis pas morte. Alors je tire sur la corde. J'ai mal, mais je tiens. Et je lui serre le doigt. Et maintenant, ils savent qu'un jour, je reviendrai. Les jours passent. Et un jour, j'arrive enfin au bout de cette maudite corde. Je rentre dans mon corps. Aïe! 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 J'arrache les tuyaux que j'ai dans le nez et dans la bouche et qui me gênent depuis si longtemps.
Appelez un médecin! Et appelez les parents! C'est un miracle, elle se réveille!
Quand les parents arrivent, le patron du service les embrasse presque.
C'est du jamais vu! Du jamais vu! Elle a eu un courage et une force extraordinaire. Elle a tout arraché, vous vous rendez compte? Dans la gorge, dans le nez, les draps sous les bras. C'est un miracle, messieurs, dames. Un miracle.
Christelle est sortie du coma au bout de 5 semaines. Au début, elle est aveugle. Mais la vue lui revient assez vite. Elle ne parle pas bien. Il n'y a que ses parents qui la comprennent. Mais ses parents, elle ne les reconnaît pas. Sa mémoire s'est effacée. Elle est comme un bébé. Elle doit tout réapprendre. Et donc, elle part en centre de rééducation. Quand Christelle se réveille au centre de rééducation, elle dit qu'elle a comme une révélation. Elle vit dans un monde parallèle. Mes parents se disent mes parents. C'est vrai qu'ils leur ressemblent, physiquement. Mais il y a quelque chose d'étranger en eux. Ces faux médecins, là, ils ont endormi mes jambes pour que je ne me sauve pas. Pourquoi ils ont fait ça? Mais elle perçoit l'amour que ses parents, qu'elle ne reconnaît pas, ont en eux. Elle perçoit leur bonté.
Allez, ma puce. Il faut manger. Ça va être froid.
Elle entr'ouvre les lèvres. Elle mâche un peu avant de déglutir. Ça n'a pas de goût. Elle ne reconnaît pas le goût.
Tu veux regarder la télévision, ma puce?
La mère allume. Elle lui tend la télécommande. Et Christelle fourre la télécommande tout de suite sous l'oreiller.
Mais pourquoi tu fais ça? En vous venez moi. J'ai la télécommande et plus oreiller. Les extraterrestres m'ont tué.
Et Christelle voit que sa mère est choquée par ces phrases, que sa mère a peur, mais qu'elle ne laisse rien paraître. Ils ont compris qu'elle n'est pas dans son état normal. Et c'est logique. Elle prend tellement d'antidouleurs et tellement d'anxiolytiques. Christelle arrive au centre, les médecins lui donnent entre 4 et 5 ans d'âge mental. Elle n'émet que des sons gutturaux. Et elle bave. Et pour écrire papa sur une feuille à 4, il lui faut toute la feuille. Alors elle fait de la kiné, de l'orthophonie, de l'ergothérapie. Un matin, vers 10h, le docteur X vient la chercher dans sa chambre.
Bonjour Christelle.
Bonjour.
Il pousse son fauteuil, il traverse le couloir bleu, puis le violet, et il la fait descendre au sous-sol, dans une pièce exiguë où des machines ronronnent. Il la porte sur une table en fer, il règle ses appareils de radiographie, il lui écarte les jambes, et il fait pénétrer ses doigts dans son intimité.
Et là, elle panique, elle crie. Elle trouve la force de se jeter dans son fauteuil et de partir en hurlant. Au viol! Au viol!
Une infirmière arrive, elle demande au médecin ce qui se passe.
Oh, c'est rien. J'ai voulu lui faire une radio des adducteurs. Elle a des ostéums qui s'ossifient sur le pubis. Mais j'ai pas eu la délicatesse de lui expliquer. Elle a pris ça pour un viol.
L'infirmière essaye de la calmer. Elle appelle les parents.
Oui. Venez, venez vite. Christelle a eu un petit malentendu pendant ses radios. Elle affabule, on peut plus la contrôler.
Les parents arrivent et ils la croient. Ils la ramènent à la maison le temps d'éclaircir les choses. Christelle a très mal vécu le fait d'être prise pour un objet, sans explication, parce qu'elle est grabataire. C'est normal en vérité. Les médecins appellent ça des affabulations dues aux lombes frontaux écrasées. C'est caractéristique de l'après-coma et des différents traumatismes crâniens. Et chez elle, elle continue de les voir, ces hommes blancs qui lui font peur et qui veulent la tuer. Six jours après ce malentendu qui s'est dissipé, Christelle retourne au centre. Elle est avec sa petite sœur Marie-Laure dans sa chambre. Une infirmière rentre.
Salope ! Mais qu'est-ce qu'il y a, Christelle ? Elle est méchante ! Elle vient me piquer les gâteaux que maman m'a apportés !
Au fond d'elle, Christelle est persuadée que tout le monde est contre elle. Un médecin tente d'expliquer ça aux parents.
Si elle est désagréable avec tout le monde, c'est parce qu'elle est dans son monde à elle. Elle ne vit pas dans la réalité. Elle n'a pas de repère dans le temps, par exemple, puisqu'elle ne se souvient pas de ses proches, de sa vie, de son enfance. Elle ne vit que par émotion, si vous voulez, sans réfléchir. Son caractère est en train de se recréer. C'est comme un nouveau-né.
Il va lui falloir tout réapprendre. Et le temps passant, ça va mieux. Elle a moins peur. Elle a grandi. Elle dit que maintenant, elle a 15 ans d'âge mental. Plus que 3 ans à rattraper. Et le week-end, elle a le droit de sortir. 2 jours de permission. Mais elle ne reconnaît toujours pas sa maison. Et elle découvre ce qu'est la vie d'handicapé en fauteuil. Elle découvre que pour entrer dans un magasin, bah, y a des marches. Et que pour se faire faire une épilation chez l'esthéticienne, il faut passer par un escalier en colimaçon. Et que l'esthéticienne trouve gênant de laisser le fauteuil dans son entrée. Vous comprenez, les clients. Et la même quand elle a terminé.
Ça y est, c'est fini.
Mais elle dit ça à sa mère. Elle ne dit pas ça à Christelle. Et en vérité, quand elle rentre chez elle, Christelle s'aperçoit qu'elle est très mal épilée. Et elle pleure. L'esthéticienne a dû se dire qu'elle était trop handicapée pour s'en rendre compte. Je jure devant Dieu que plus personne, plus jamais, ne me regardera avec ces yeux-là. Trois mois après son accident, Christelle rentre enfin à la maison. Mais elle n'a toujours pas de souvenirs. Sa mère ouvre les albums photos.
C'est qui, tous ces gens? Eh bien, c'est la famille, hein? Et tes amis. C'était le jour de tes 18 ans. C'était il y a 6 mois.
Et quand la rentrée approche, elle n'a qu'une seule obsession. Elle veut passer son bac.
Je veux passer mon bac, docteur. Attendez encore quelques mois pour vous rétablir. Non. La rentrée, c'est dans 15 jours. J'y serai.
Et 3 mois après son accident, elle retourne en terminale dans son ancien lycée. Quelques jours avant la rentrée, elle est à fond.
Couche-toi, ma chérie. Il est 2 heures du matin. Non. Je vais encore écrire quelques mots.
Quand Christelle écrit le mot papa sur une feuille de papier A4, il tient désormais dans un carré de 5 cm de côté. Elle a fait des progrès, mais il lui reste d'énormes lacunes. Le jour de la rentrée, les autres la regardent comme une revenante. Il est vrai qu'elle est un peu en décalage.
Hé les gars, chouette, la prof est malade. Non mais ça va pas te dire ça. Tu te rends pas compte de la chance qu'on a d'aller au lycée et de nous instruire? Et en plus pour toi c'est facile d'apprendre. Alors arrête de toujours te plaindre.
Et petit à petit, Christelle redevient de plus en plus normale. Elle écrit mieux, elle comprend mieux. Et arrive le jour tant attendu, le jour des résultats du bac. Elle a passé son bac avec une attestation de handicap. Elle a eu un tiers de temps supplémentaire pour écrire et préparer ses oraux. Elle s'approche du bureau où se trouve l'homme qui a les résultats.
Voyons, voyons. Félicitations, mademoiselle. Vous avez été reçue avec de très bons résultats.
Allemand, 16 sur 20. Anglais, 11 sur 20. Et là, pile à ce moment, quelque chose d'inexplicable se produit. Des flashs de sa vie lui arrivent de toutes parts. Elle voit revenir des images de toute sa vie. Tout se remet en place. Et quand elle rentre chez elle, pour la première fois, elle reconnaît la maison. Elle reconnaît l'escalier où elle est tombée quand elle était petite. Elle vient de retrouver sa planète. Voilà donc pour cette histoire que j'ai choisi, Christelle Canin-Caillot, d'arrêter là, à ses résultats incroyables du baccalauréat. Mais il y a une suite dans le livre, et comme le livre en plus a été écrit il y a 10 ans de cela, il y a une suite au livre. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Vous avez passé un BTS de comptabilité, c'est ça?
Oui, j'ai passé un BTS de comptabilité et d'autres, des équivalences aussi en comptabilité, puis j'ai trouvé un travail.
Et depuis vous travaillez?
Et depuis je travaille.
Le petit copain Jo, ça n'a pas été facile avec lui, si j'ai bien compris.
Non, on s'est séparés, on avait évolué différemment et quand je me suis mise à travailler, on s'est quitté.
Vous en voulez au gamin qui a provoqué l'accident? Et Jo, il soutient son pote, c'est ça?
Oui, il y avait de ça à l'époque aussi un petit peu et puis je pouvais pas continuer de toute façon avec cette histoire.
Vous avez rencontré un homme qui s'appelle Bruno?
Oui.
Un flic?
Oui.
Ouais, avec lequel vous êtes toujours?
Oui.
Vous avez eu 2 enfants?
Voilà, c'est ça.
Des jumeaux?
Des jumeaux, Arthur et Loïc.
Et la santé, alors?
La santé, c'est compliqué parce qu'en fait, ça fait 10 ans que j'ai écrit le livre et depuis, mon handicap a encore évolué. Et c'est vrai que maintenant, je me déplace aussi beaucoup en fauteuil roulant parce que je fatigue vite. Parce
aujourd'hui,
que...
vous êtes avec des béquilles?
Aujourd'hui, je suis avec des béquilles et demain, je serai peut-être soit avec des béquilles, soit avec mon fauteuil. Je sais un peu jamais à l'avance, en fait.
Vous gérez au jour le jour?
Voilà, c'est ça.
Vous êtes resté donc handicapé des suites de cet accident?
Oui.
Lourdement handicapé?
Oui.
Les douleurs reviennent?
Les douleurs, c'est 24 heures sur 24, mais je fais plus trop attention parce que ça fait partie de ma vie maintenant.
Vous gérez ça?
Voilà, je gère.
Mmh. Les douleurs psychologiques? Les cauchemars? L'accident? Ça... il revient?
Maintenant, moi, j'ai réussi à canaliser ça maintenant.
Mmh. Toute seule?
Avec l'aide d'un psychologue.
Que
qui
vous
m'a fait travailler
toujours
sur mes rêves? Non.
Vous le voyez plus?
Non, je le vois plus.
Tout ça est posé et vous tracez toute seule.
Voilà.
C'était votre caractère avant, cette grosse idée dont on va reparler tout à l'heure, de s'accrocher à la corde, de tirer bien fort avec les bras, jusqu'à vous sortir du commun.
J'ai toujours été une fonceuse, donc je suppose que mon caractère m'a beaucoup aidée dans cette épreuve.
Christelle Canin-Caillot, il s'est écoulé 10 ans depuis que vous avez raconté cette histoire dans ce livre. Peut-être que d'ailleurs, depuis 10 ans... vous avez trouvé des mots pour nous faire comprendre un peu mieux les choses, parce que cette histoire de « je me vois d'en haut » juste après l'accident, c'est-à-dire que, moi, tel que je le visualise, c'est que vous êtes au-dessus de votre corps.
Voilà, je suis au-dessus de mon corps, je peux pas trouver des mots plus justes que ça, puisqu'en fait j'étais allongée, et j'étais allongée aussi, mais au-dessus, enfin, comme si mon corps il s'était dédoublé, donc je peux pas trouver d'autres mots que ça, en fait.
Mais est-ce que avant l'accident, vous croyez à des choses inexplicables? Ou est-ce que vous êtes de base une femme rationnelle, une jeune fille rationnelle?
En fait, avant l'accident, je ne pense pas que je m'intéressais à ce genre de choses.
Non.
Donc je ne peux pas, j'étais jeune, j'étais
insouciante. Il n'y avait pas de prédisposition?
Non, absolument pas, non. Mmh.
Donc pour vous, il se passe quoi là? Aujourd'hui, est-ce que vous coloriez par exemple le mot âme? Est-ce que c'est votre âme qui est au-dessus de ce corps? Parce que fonctionnellement, il est mort ce corps à ce moment-là. Jo ne vous a pas ranimé. Vous êtes morte.
Oui, à ce moment-là, oui. Et est-ce que c'est mon âme? Je ne sais pas. Je sais du coup qu'il y a quelque chose après la mort, puisque je voyais les autres alors que j'étais morte. Je sais qu'il se passe quelque chose, mais dire quoi, j'ai pas la science infuse, donc je ne sais pas.
Vous dites que ça fait pas mal?
Non, absolument pas.
C'est-à-dire qu'aucune douleur n'accompagne ce corps en lévitation au-dessus de son corps physique?
Oui. mais c'est passé tellement vite que j'ai pas eu le temps, je pense, de sentir la douleur. En l'espace d'une seconde, je me suis vue à côté.
Si Joe ne vous pratique pas ce massage cardiaque, vous mourrez. Il n'y a pas de corde et le tunnel vous aspire.
Oui, je pense qu'il m'a sauvé la vie.
Ouais, il vous a sauvé la vie.
Oui.
Vous avez eu l'occasion d'en parler avec lui de ce moment-là ou pas? Ou le trauma entre vous deux était tellement fort que ça n'a pas eu lieu?
Non, je ne crois pas qu'on en ait reparlé.
C'est dommage, non?
On est restés ensemble longtemps après, donc...
Il venait à l'hôpital?
Oui, bien sûr.
Alors cette corde, mais c'est vraiment une corde ou c'est un mot que vous avez trouvé pour
vous
faire comprendre
quelque chose? Ah non, c'est une corde, c'est vraiment...
Physiquement,
oui, c'est ça. C'est une corde blanche, enfin, quand je ferme les yeux, je la visualise très bien, enfin...
Donc ça, c'est la corde qui vous retient à la vie.
Voilà.
Mais tout vous dit d'aller dans le tunnel.
Ben en fait, c'est quand on se laisse aller dans le tunnel, on sent plus la douleur physique. On sent, c'est comme s'il y a de la bonté, de la gentillesse. Enfin, c'est dur d'expliquer ça avec des mots, de la bienveillance qui s'imprègne de notre corps, qui est ce brouillard blanc. C'est pas que c'est magique, mais c'est.
C'est attirant. En tout
voilà.
Cas. Vous dites que vous avez le choix. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire que un libre arbitre fonctionnerait donc à ce moment-là entre je m'accroche à la vie ou je me lâche à la mort.
Oui, j'avais le choix, mais dans ma tête, c'était je souffre et c'est normal de souffrir ou je me laisse aller et je vais vers ce tunnel que je ne connais pas, même si si je me sens mieux, mais je connais pas. Enfin, mais j'avais le choix de ne pas y aller.
J'imagine que depuis 10 ans, vous avez eu tout le temps de réfléchir à ce qui s'était passé là-haut. Est-ce que vous re-raconteriez aujourd'hui les choses avec les mêmes mots ou est-ce que vous donneriez des noms?
Non, je pense que les choses telles que je les ai racontées, c'était avec mes souvenirs de l'époque, donc je pense que mes mots seraient inchangés en fait.
Mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous y avez collé quelque chose, par exemple, de religieux sur ça? Est-ce que Dieu est quelque part dans cette histoire? Est-ce que le paradis est quelque part dans cette histoire? Est-ce que les anges sont quelque part dans cette histoire? Ou est-ce que vous n'êtes pas allé jusque-là?
Alors, j'ai toujours été croyante et je sais que j'ai un ange gardien. Ça y est, mais je l'ai toujours su, même avant, j'ai toujours cru à mon ange gardien. Donc, je ne peux pas en dire plus là-dessus. Enfin, je ne me suis pas trop posé la question. Je sais qu'il y a quelque chose... Je suis croyante, après, maintenant...
Donc vous faites le choix de vous accrocher à la corde. Est-ce que depuis 10 ans, je suppose qu'il y a eu des moments difficiles au cours de ces 10 années? Bien sûr, on peut raconter la belle histoire, j'ai rencontré Bruno, c'est formidable, on a 2 enfants, tout va bien.
Oui, mais je l'ai rencontré bien avant les 10 ans.
Et il y a eu une dépression à un moment donné.
Oui.
Est-ce qu'au moment de cette dépression, il vous est arrivé de regretter de vous être accroché à la corde?
Ah oui, forcément, parce que des fois... On a tellement de souffrances physiques et morales aussi, parce que c'est pas toujours facile à accepter d'avoir un handicap, d'avoir des capacités en moins. Donc, il suffit d'être dans un mauvais jour et d'avoir les douleurs super fortes en même temps qu'on n'arrive pas à calmer. Et on se dit, mais ça sert à quoi de se battre? Je peux pas bouger et en plus j'ai mal. Mais bon, ça passe vite, quoi. Mais ça m'est arrivé, oui, bien sûr.
Parce que là-bas, d'après ce que vous en dites, on a pas mal, c'est merveilleux et c'est plein d'amour. Donc, qu'est-ce qui fait...
Oui, mais là-bas, j'ai pas ma famille.
Ah, vos parents, à ce moment-là.
Mes parents, oui. Ma petite sœur Marie-Aurore, ouais. Mon frère Jean-Marie, ma grande sœur Sandrine, ouais. C'était mon noyau dur, en fait.
Donc, vous confirmez ce qu'on dit depuis longtemps, mais tous les gens dans le coma n'ont pas vécu la même expérience. Donc, il y a coma et coma, manifestement, mais dans le coma... On entend et on voit tout ce qui se passe autour.
Pour ma part, oui. Après, apparemment, c'est vrai que tout le monde n'a pas la même expérience du coma, mais moi, j'ai tout entendu et j'ai tout vu.
Les scènes que vous racontez, par exemple, le moment où vos parents mettent cette cassette de Nirvana, c'est vous qui vous en souvenez, ça n'est pas eux qui vous la racontent.
Non, ça, c'est moi qui m'en suis souvenu.
Et vous êtes contente à ce moment-là,
oui,
qu'ils aient choisi cette musique.
Oui.
Ouais.
Oui, c'est ce que j'écoutais à l'époque en terminale avec ma copine.
Et quand vous dites que des gens vous ont parlé, qui vous ont dit un peu des secrets, que après la sortie du coma, vous avez été capable de leur dire « je sais que tu m'as dit ça », ça s'est vraiment passé?
Bah oui, ça s'est passé.
La tête des gens, quand vous leur dites ça?
Bah pas si étonnée que ça, en fait.
C'est-à-dire que l'idée est répandue dans la société que dans
le commun. Je sais pas, mais ça n'a pas l'air d'avoir surpris tant que ça quand j'ai parlé de tout ce qui s'est passé quand j'étais dans le coma, comment ma mère était habillée, comment ça n'a pas l'air de les avoir surpris que je les ai vus.
C'est-à-dire qu'il y a cette idée répandue dans la société que dans le commun, on a une oreille sur le monde qui autour, quoi. Et les médecins, ils disent quoi de ça? Vous en avez parlé avec eux, les réanimateurs? Depuis, peut-être? Non.
Non, jamais.
Jamais? Vous n'avez pas cherché de ce côté-là?
Non.
Vous racontez, point.
Je raconte mes souvenirs, après, je me dis, les personnes qui veulent me croire, me croient, celles qui ne me croient pas, ne me croient pas. De toute façon, j'ai amené des preuves par rapport aux personnes avec qui m'entouraient, donc après... Si j'ai vu un médecin avec qui j'avais fait une émission qui avait dit que c'était normal que bientôt, dans quelques années, on se rendrait compte que les gens dans le coma, scientifiquement, on pourrait le prouver que les gens peuvent voir et entendre lorsqu'ils sont dans le coma, mais sinon...
Alors, il y a une scène, je ne suis pas sûr de l'avoir vraiment comprise, c'est-à-dire que j'ai un doute, mais donc vous expliquez que le jour de la fête des pères, votre père est là, et que vous voulez lui envoyer un message et que vous lui serrez le doigt.
C'est tellement important, enfin, j'ai un amour tellement fusionnel avec mes parents, et là, c'était tellement important que ce jour-là, je lui montre que j'étais pas morte. C'était vraiment un enjeu pour moi, il fallait vraiment que je me batte, que j'arrive à rentrer dans mon corps, que j'arrive à lui serrer les doigts, et...
Et vous y êtes arrivée.
Et j'y suis arrivée, mais c'était vraiment, je me rappelle, c'est vraiment plus qu'important. Enfin,
mais vous savez comment lui l'a vécu à ce moment-là? Il l'a perçu?
Ah, bien sûr. Et là, il a su que je revenais bientôt, enfin...
Il a dit au médecin, enfin, il y a dû y avoir une petite agitation autour de ce serrement de doigts.
Ça, je ne m'en rappelle plus, mais...
Ouais. À ce moment-là, eux, ils ont pris ça pour un signe, en tout cas vos parents.
Oui, mes parents, oui.
Sur le moment, il le voit, votre père? Il le sent? Enfin, vous le voyez le sentir,
bien sûr, en fait.
c'est ça qui est un peu compliqué. Alors, Nirvana, ça vous fait du bien? C'est violent, quand même, hein?
Oui, mais en fait, c'était...
Dans une salle de réa.
Oui, c'était en terminale et on écoutait ça. C'était la musique à la mode, je suppose. Et lorsque j'ai entendu Nirvana accompagné des bip-bip des machines, ça fait du bien.
Je me doute. L'arrachement des tuyaux, ça aussi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que vous le racontez de l'intérieur. Donc,
Ah oui, mais ça, franchement, c'était un soulagement parce que ça faisait des jours et des jours que je leur disais « Mais enlevez-moi ces tuyaux, enlevez-moi ces tuyaux,
c'est
ça me gêne. »
C'est la trachéo qui vous gênait.
Oui, ouais. Et « Enlevez-moi ces tuyaux dans le nez, partout » et ils n'enlevaient rien. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi ils ne me les enlevaient pas alors que je leur disais de me les enlever. Mais en fait, c'est parce qu'ils ne m'entendaient pas. J'avais l'impression qu'ils m'entendaient, mais non. Et du coup, quand j'ai réussi à rentrer dans mon corps, c'est la première chose que j'ai fait d'enlever tous ces tuyaux qui me gênaient.
Le médecin a l'air de dire que lui dit « C'est du jamais vu ».
Oui.
C'est-à-dire qu'il n'a vraiment jamais vu quelqu'un s'arracher lui-même son assistance respiratoire.
Vu dans l'état dans lequel j'étais, apparemment, c'était soit du jamais vu, soit très rare, je ne sais pas.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette vie parallèle va continuer après votre sortie du coma. C'est-à-dire que vous avez réintégré votre corps, comme vous dites, mais malgré tout, vous n'êtes pas en phase avec les gens qui sont autour de vous. Vous dites-vous que c'est une révélation? En fait, c'en est pas. C'est juste que vous êtes à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'il va falloir vous rééduquer. Mais vous le vivez à ce moment-là comme la continuation de cette vie parallèle. C'est ça,
hein? En fait, ma révélation, c'est que les autres sont pas normaux et moi, je suis normale. Parce qu'en fait, quand je parle, pour moi, je parle aussi clairement qu'aujourd'hui, mais en fin de compte, ce qu'on entend, c'est pas clair. Donc...
Ouais. C'est de leur faute.
Pour moi, voilà, c'est pas moi qui vais pas bien, c'est les autres.
Cette histoire de viol, elle est assez troublante. D'ailleurs, vos parents sont troublés par cette histoire-là, hein, à l'époque. Et je dois dire que dans le livre, vous nous laissez un peu en plan. Et je me suis dit, tiens, c'est parce que même pour elle, ça n'est pas totalement clair aujourd'hui. Ou si?
Si, mais je l'ai vraiment très très mal vécu à l'époque.
Il a pas abusé, ce médecin? Un peu.
Non, il aurait dû me parler, en fait. Il aurait dû me parler.
Pouvait-il imaginer que vous compreniez, puisque vous parliez si mal?
Justement, c'est là où le bât blesse, c'est que c'est pas parce qu'une personne paraît grabataire qu'en fait, il faut pas lui parler comme si elle n'avait aucun souci, puisqu'en fait, au fond de nous, on entend bien, même si on est à l'extérieur grabataire, à l'intérieur, on ne l'est pas, quoi.
Il y a une dernière scène qui est absolument incroyable, c'est que c'est donc le fait que vous ayez le baccalauréat qui vous permet de vous retrouver pleinement, de retrouver totalement votre mémoire et vos souvenirs. Ça, c'est... Là, il y a zéro explication.
Si, l'explication, en fait, elle est assez simple. C'est que, étant donné que j'étais persuadée que toutes les personnes que je côtoyais, c'était des étrangers, et que j'étais la seule à ma place, et que j'avais qu'un souvenir, j'avais perdu la mémoire, mais j'avais le souvenir que je passais le bac. Donc, pour retrouver la mémoire, pour moi, fallait passer le bac, et pour retourner sur ma planète, fallait passer le bac. Donc, ça a été un déclic, je pense.
Ouais. Vous vous êtes fixé une échéance, et à partir du moment où elle est franchie, ça remet le compteur à zéro, quoi.
Je pense.
Alors, cette histoire, moi, ce qui m'a saisi, le livre est extraordinaire, et je n'en ai raconté que les 120 premières pages. Il y a encore beaucoup derrière sur cette lente reconstruction. Je conseille à chacun de ceux qui s'intéressent à ce sujet de le lire. Ça s'appelle « Je suis sorti de mon corps » aux éditions O. Ce livre, moi, je me suis dit du début à la fin, enfin, c'est un film. Et en rentrant dans le studio, tout à l'heure, vous m'avez dit « J'aimerais bien qu'on en fasse un film un jour ».
Oui, en fait, c'est vrai que si j'ai écrit ce livre, à la base, c'était pour aider les gens, pour remercier ma famille, et puis pour aider les gens qui se retrouvaient dans des situations identiques, pour aider les familles, pour leur montrer qu'il n'y a rien d'impossible, qu'il faut toujours continuer à se battre. Et en fait, je sensibilise donc en faisant des émissions, en dédicaçant mon livre. Mais je me suis dit, et les gens qui n'écoutent pas les émissions ou qui ne lisent pas, il faut que je les aide aussi. Et alors je me suis dit, mais je vais encore avoir un rêve. De toute façon, c'est les rêves dans la vie qui me font avancer. Je vais faire un film. Mais pour faire un film, il faut que je trouve un réalisateur et un producteur. Donc, je cherche.
Donc vous cherchez toujours, 10 ans après, aller au bout de ce projet.
Oui, et j'aimerais vraiment qu'un réalisateur ou un producteur m'appelle un jour et me dise « Christelle, bingo, ton histoire, elle m'a touchée, on va faire quelque chose.
Ah » Moi, je trouve qu'il y a matière, en tout cas. Je ne suis pas réalisateur, mais si je l'étais, ça m'intéresserait. Au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Puisque vous parlez de faire passer un message. Il y a la cause du handicap, qui a été votre combat depuis l'accident.
Voilà.
Et il y a quoi d'autre?
Donc, le regard des autres. Avec
sur le handicap,
sur le handicap invisible, parce que par exemple, là, vous me voyez aujourd'hui, je suis avec ma canne.
Ouais.
Donc, quand je vais faire les courses, je vais à la caisse prioritaire. Si j'y vais avec ma canne.
Les gens toussent un peu.
Voilà.
Ils disent, elle est gonflée, elle tient debout.
Si j'y vais avec mon fauteuil roulant, on me laisse passer bien, sans problème. Mais si j'y vais avec ma canne, je le porte pas sur moi, que j'ai un handicap. Donc, on fait les gros yeux. Donc, je voudrais sensibiliser au handicap invisible, parce que c'est important. Voilà, ça c'est un des messages que je veux faire passer.
Mais est-ce que dedans, dans ce projet, cette envie qu'un film se fasse sur votre histoire, il y a aussi l'idée d'aller essayer de montrer cette vie après la mort? Moi je pensais que c'était ça votre moteur. C'était que vous avez la preuve qu'il y a une vie après la mort.
J'en ai la preuve, mais vous me posez une colle parce qu'en fait, j'aborde tellement de sujets en fait dans mon livre, et c'est pour ça que je voulais les aborder dans un film. C'est aussi le coma, pour que les gens aient continué à parler aux gens qui se retrouvent dans le coma parce qu'on les entend.
Ça c'est votre préconisation, ça.
Voilà.
Il faut parler aux gens dans le coma.
Ah oui, il faut parler aux gens qui sont dans le coma parce qu'on les on entend. Pour les jeunes qui sont en situation de passer le permis ou qui viennent juste de l'avoir, d'être très prudents parce qu'un accident ça arrive vite, donc pas de portable au volant, parce que une fraction de seconde ça suffit pour avoir un accident. Même si à l'époque de mon accident les portables n'existaient pas, donc il n'y avait pas ce problème, mais maintenant c'est pas de portable au volant, soyez les yeux sur la route et attention, en 30 secondes une vie peut basculer. Les jeunes plus tard aussi, soyez à l'écoute de tout le monde. Si vous avez des amis handicapés, essayez d'être bienveillant. Enfin, il y a plein de messages que je portais dans le monde du travail aussi. Le handicap a évolué dans la vie de tous les jours, dans les rues en fait, même les rues, les lieux publics. Maintenant, c'est plus accessible par rapport à il y a 20 ans. Donc, il y a plein de choses qu'on peut mettre en avant.
Dans les messages que vous transmettez depuis 10 ans, est-ce qu'il y a aussi elle est morte. Elle est morte ta fille, elle est morte ta mère, il est mort ton copain. Mais c'est pas mal après. Je peux en témoigner, j'ai vu. Ça vous est arrivé de le dire?
Non, je ne dis pas c'est pas mal après, je dis juste il ne souffre plus.
Ouais. Mais vous vous dites c'est que de l'amour. Vous écrivez
contre,
ça?
Oui, ça c'est que de l'amour, ça c'est sûr.
Il n'y a pas de souffrance?
Non.
On n'a pas mal quand on meurt?
Non.
On vit un moment joyeux? De plénitude?
Plus la plénitude que... C'est pas que c'est joyeux, c'est qu'en fait on a plus mal et on sent comme de la bonté qui vient vers nous.
Vous êtes satisfait d'avoir vécu cette expérience au final? Est-ce que vous pensez qu'elle a enrichi votre vie, même s'il a été infiniment douloureuse, que ça a été un sac à dos terrible à porter depuis toutes ces années? Au final, est-ce que ça vous a enrichi?
C'est évident. C'est évident, j'ai vécu tellement de choses depuis cette expérience que c'est évident que ça m'a enrichi, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, ça m'a apporté plein de choses, ça m'a fait rencontrer des gens très intéressants que j'aurais, sur lesquels je ne me serais même pas retournée, ça m'a fait voir des choses que j'aurais même pas soupçonnées, oui.
C'est ce qu'on appelle un mal pour un bien.
Voilà, c'est ça. Mais je me passerais quand même de la douleur tous les jours si je pouvais.
Oui, je comprends. Je rappelle le titre de votre livre que j'incite véritablement à lire, qui s'appelle « Je suis sortie de mon corps » de Christelle Canin-Caillot.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.